Jules. Je suis restée dans la cuisine à attendre le retour de Léna. J'ai appelé son téléphone, j'ai laissé des messages sur son répondeur. J'étais terriblement inquiète et dans ma tête, je t'entendais me réprimander de ne pas l'avoir suivie, comme tu m'avais suivie. On ne raconte pas les histoires de la même manière, toi et moi. Je le sais, car j'ai lu tes mots. À 17 ans, j'ai sauvé ma petite sœur de la noyade. Sans contexte, quel héroïsme! Tu n'as pas écrit comment je m'étais retrouvée là-bas. Tu n'as pas parlé de la partie de football, du sang, de Robbie, ni du bassin. À 17 ans, j'ai sauvé ma petite sœur de la noyade. Voilà ce que tu écris, mais tu as la mémoire sélective, Nell. Je sens encore tes mains sur mon crâne. Je me souviens avoir lutté contre toi, la douleur de mes poumons vides d'air, la panique glaciale qui m'a envahie quand, malgré mon ivresse, malgré cette lamentable torpeur, j'ai su que j'allais me noyer. Tu m'as maintenue sous l'eau, Nell. Pas longtemps, tu as changé d'avis. Le bras bien serré autour de mon cou, tu m'as tiré jusque sur la berge, mais j'ai toujours su qu'une partie de toi avait eu envie de me laisser là. Tu m'as dit de ne plus jamais en parler, tu m'as fait promettre, pour maman. Alors j'ai mis cette histoire de côté. Je suppose que j'avais toujours cru qu'un jour, dans un futur lointain où nous serions vieilles, où tu aurais changé, où tu aurais été désolée, nous en aurions reparlé. Nous aurions discuté de ce qui s'était passé, de ce que j'avais fait, de ce que tu avais fait, de ce que tu avais dit, de comment nous en étions arrivés à nous haïr l'une l'autre. Mais tu ne m'as jamais dit que tu étais désolée. Et tu ne m'as jamais expliqué comment tu avais pu me traiter ainsi, moi, ta petite sœur. Tu n'as pas changé. Tu t'es contentée de mourir. Et j'ai l'impression qu'on m'a arraché le cœur de la poitrine. J'ai désespérément besoin de te revoir. J'ai attendu Léna jusqu'à ce que l'épuisement vienne à bout de ma résistance, et j'ai fini par aller me coucher. J'avais beaucoup de mal à dormir depuis que j'étais revenue dans cette maison et je commençais à en payer le prix. Je me suis effondrée dans le sommeil, errant de rêve en rêve jusqu'à ce que j'entende la porte d'entrée, en bas, puis les pas de Léna dans l'escalier. Je l'ai entendue entrer dans sa chambre et mettre de la musique, suffisamment fort pour que je puisse l'entendre. Je me suis laissée retomber dans le sommeil. Quand je me suis à nouveau réveillée, la musique était toujours là, la même chanson, encore plus fort. Je voulais... Non, j'avais besoin. Que ça s'arrête, mais je ne parvenais pas à m'extraire des draps. Je me suis demandé si j'étais bien réveillée, mais si c'était le cas, pourquoi avais-je ce poids qui m'écrasait la poitrine? Je n'arrivais ni à respirer, ni à remuer, mais j'entendais clairement la voix de la femme qui chantait toujours. Soudain, le poids s'en est allé et je me suis levée, furieuse. J'ai titubé dans le couloir en criant à Léna de baisser la musique. J'ai ouvert brutalement sa porte, la chambre était vide. Lumière allumée, fenêtre ouverte, des mégots de cigarettes dans le cendrier, un verre posé près du lit défait. Le volume de la musique semblait enfler encore et encore. J'avais terriblement mal à la tête et à la mâchoire, et je continuais de crier alors qu'il n'y avait personne. J'ai fini par trouver les enceintes de son iPod dont j'ai arraché la prise et, enfin, enfin, je n'ai plus entendu que le bruit de ma respiration et du sang qui me martelait les tempes. Je suis retournée dans ma chambre et j'ai rappelé Léna, en vain. J'ai essayé d'appeler Sean, mais je suis tombée directement sur le répondeur. Au rez-de-chaussée, la porte d'entrée était verrouillée et toutes les lumières allumées. Je suis passée de pièce en pièce pour les éteindre une à une en chancelant, comme ivre ou droguée. Je me suis allongée sur la banquette sous la fenêtre, là où je m'installais avec ma mère pour lire des livres, là où, 22 ans plus tôt, ton petit ami m'avait violée, et je me suis à nouveau endormie. J'ai rêvé que l'eau montait. J'étais à l'étage, dans la chambre de mes parents, allongée sur le lit avec Robbie à côté de moi. Dehors, sous la pluie battante, la rivière montait et montait, et inexplicablement, je savais qu'en bas, la maison se remplissait d'eau peu à peu. Doucement d'abord, un filet sous la porte, puis plus rapidement. Les portes et les fenêtres s'ouvraient soudain sous la pression et un torrent sale se déversait dans la maison, en vagues qui venaient lécher les marches. Je parvenais à voir le salon plongé dans une lueur verte boueuse tandis que la rivière reprenait possession de la maison, que l'eau atteignait le cou du chien de Goya. Sauf qu'à présent, ce n'était plus une peinture, mais un vrai animal. Les yeux blancs écarquillés de terreur, il se débattait pour survivre. J'ai voulu me lever pour courir à son secours, mais Robbie m'en empêchait. Il me tirait les cheveux. Je me suis redressée en sursaut. La panique m'avait arrachée à mon cauchemar. J'ai regardé mon téléphone. Il était plus de 3 heures du matin. J'ai entendu un bruit. Quelqu'un qui bougeait dans la maison. Léna était rentrée, Dieu merci. Je l'ai entendue descendre l'escalier. J'ai reconnu le bruit de ses tongs sur la pierre. Elle s'est arrêtée dans l'encadrement de la porte, la silhouette illuminée de dos par la lampe du couloir. Elle s'est avancée vers moi. Elle disait quelque chose, mais je ne l'entendais pas. Puis j'ai vu qu'elle ne portait pas ses tongs, mais des talons, ceux qu'elle avait à l'enterrement, et la même robe noire qui dégoulinait. Elle avait les cheveux collés au visage, la peau grise, les lèvres bleues. Elle était morte. Je me suis réveillée dans un cri. Mon cœur tambourinait dans ma poitrine, la banquette sous moi était trempée de sueur. Je me suis rassise, désorientée. J'ai regardé les peintures en face de moi et elles m'ont semblé se mouvoir. J'ai pensé, je suis encore endormie. Je n'arrive pas à me réveiller. Je n'arrive pas à me réveiller. Je me suis pincée aussi fort que j'ai pu. J'ai enfoncé les ongles dans la chair de mon avant-bras et j'ai vu de vraies marques. J'ai ressenti une vraie douleur. La maison était plongée dans le noir et le silence, à l'exception du susurrement discret de la rivière. J'ai appelé Léna. J'ai couru à l'étage, dans le couloir. La porte de sa chambre était entrouverte, la lumière allumée. La pièce était exactement comme je l'avais laissée quelques heures plus tôt. Le verre d'eau, le lit défait et le cendrier n'avaient pas bougé. Léna n'était pas là. Elle n'était pas rentrée. Elle avait disparu.